Chapitre 3. An 12 de la grande crise. Flotte trisolarienne à 4,18 années-lumière du système solaire. Centre de contrôle du télescope Hubble 2. Une autre brosse était apparue dans l'espace. La flotte trisolarienne avait dépassé le deuxième nuage de poussière interstellaire. Hubble 2 surveillant étroitement la zone, le sillage de la flotte fut photographié dès son apparition. À ce stade, il n'avait pas tant l'apparence d'une brosse que celle d'une touffe d'herbe commençant à peine à pousser dans les sombres abysses de l'espace. Ces milliers de brins d'herbe croissaient à vue d'œil. Ils étaient beaucoup plus distincts que 9 ans plus tôt. Pendant ces 9 années d'accélération continue, la vitesse de la flotte avait en effet considérablement augmenté et l'impact provoqué sur la poussière interstellaire avait été plus brutal. « Général, regardez bien. Est-ce que vous arrivez à les voir ?» lança Ringer à Fitzgerald en pointant l'image agrandie sur l'écran. « On dirait qu'ils sont toujours 1000. » « Non, observez mieux. » Fitzgerald étudia l'image pendant un bon moment, puis il désigna le milieu de la brosse. « Il semblerait que... 1, 2, 3, 4... 10 poils de la brosse ont poussé plus vite que les autres. Ils sont plus longs. » « En effet, ces 10 sillages sont extrêmement fins. Ils ne sont visibles que si on augmente l'agrandissement. » Fitzgerald se tourna vers Ringer. Il avait la même expression que celle qu'il avait arborée une décennie plus tôt, lorsqu'ils avaient pour la première fois découvert des traces de la flotte trisolarienne. « Docteur, est-ce que cela signifie que 10 de leurs vaisseaux sont en train d'accélérer ?»« Ils sont tous en train d'accélérer. Mais les 10 sillages qui se détachent des autres indiquent une accélération plus importante. Toutefois, ce ne sont pas 10 vaisseaux, car il nous est possible d'observer maintenant 1010 sillages. Soit 10 de plus que la dernière fois. Une analyse morphologique de ces 10 sillages nous a permis de constater qu'ils étaient 10 fois plus petits que les vaisseaux derrière eux. À peu près 1/15 de leur taille, soit l'équivalent d'un camion, mais étant donné leur grande vitesse, ils produisent des sillages qui restent néanmoins détectables. C'est petit, en effet. Des sondes ? 10 sondes. Hubble 2 venait de faire une autre découverte sensationnelle. Le premier contact avec une entité trisolarienne aurait lieu plus tôt que prévu, même s'il ne s'agissait que de 10 petites sondes. « Quand atteindront-elles le système solaire ?» demanda nerveusement Fitzgerald. « C'est encore difficile à dire, cela dépendra de leur accélération future, mais nous pouvons être sûrs qu'elles arriveront avant la flotte. Pour vous donner une estimation prudente, je dirais qu'elles atteindront le système solaire 1 siècle avant les vaisseaux. La flotte semble manifestement avoir atteint sa limite d'accélération, mais, pour une raison que nous ignorons, les trisolariens souhaitent gagner plus rapidement le système solaire et ont envoyé des sondes capables d'accélération plus significative. « Ils ont déjà des intellectrons. À quoi bon lancer des sondes ?» demanda un ingénieur. Cette question plongea tout le monde dans le silence, que brisa néanmoins rapidement Ringer. « Ne pensons pas à ça. » « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons deviner. »« Si, » intervint Fitzgerald en levant une main. « Nous pouvons au moins en deviner une partie. Ce que nous observons aujourd'hui est un événement ayant eu lieu il y a 4 ans. Seriez-vous en mesure de déterminer la date exacte à laquelle les sondes ont été lancées par la flotte ?»« Oui, par chance, les sondes ont quitté les vaisseaux alors qu'ils se trouvaient dans la neige, je veux dire dans la poussière interstellaire, ce qui nous a permis de déterminer la date grâce à nos observations de l'intersection entre les sillages des sondes et ceux de la flotte. » Ringer donna ensuite la date à Fitzgerald. Le général resta un moment abasourdi. Il alluma une cigarette et s'assit pour la fumer. Il attendit un long moment avant de lâcher. « Docteur, vous n'êtes pas politicien après tout. Comme moi qui ne me suis pas aperçu des 10 poils en plus sur la brosse, vous n'avez pas relevé l'importance capitale de cette date. Est-ce que la date a un sens particulier ? » demanda Ringer sans trop comprendre. Ce jour-là, il y a 4 ans, j'ai participé à une audience de collimateurs au siège du Conseil de défense planétaire. C'est au cours de cette réunion que Luo Ji a soumis son idée d'envoyer une malédiction dans l'univers. Les scientifiques et les ingénieurs se regardèrent. Et c'est à ce moment-là aussi que Trisolaris a réitéré pour la seconde fois son appel à éliminer Luoji. Lui? Est-il si important? Vous croyez peut-être qu'il a d'abord été un séducteur sentimental avant de jouer à l'apprenti sorcier? Bien sûr, nous aussi. Tous l'ont cru, sauf les Trisolariens. Et vous, général, qu'en pensez-vous? Docteur, croyez-vous en Dieu? Cette question soudaine laissa Ringer un moment sans voix. En Dieu? Ma foi, ce concept revêt aujourd'hui tellement de sens différents sur tellement de niveaux différents, je ne sais pas ce que vous... Moi, je crois. Même s'il n'existe aucune preuve, c'est d'ailleurs mieux ainsi. Si Dieu existe réellement, nous avons raison de croire. Sinon, nous ne perdons rien. Les paroles du général firent rire l'assemblée. Puis Ringer reprit. Pour ce qui est de votre dernière phrase, ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons beaucoup à perdre, au moins en ce qui concerne la science. Mais si Dieu existe, qu'est-ce que cela change? A-t-il quelque chose à voir avec ce qui nous arrive? Si Dieu existe, il doit sans doute avoir un porte-parole dans le monde mortel. Un moment passa avant que tous comprennent ce que voulait dire Fitzgerald. Un astronome prit la parole. « Général, que dites-vous? Dieu aurait choisi son porte-parole dans un pays athée ?» Fitzgerald tortilla son mégot pour l'éteindre et haussa les épaules. « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Avez-vous d'autres explications ?» Ringer hésita. Si, par Dieu, vous voulez parler d'une sorte de justice transcendant toute chose dans l'univers, Fitzgerald l'arrêta en levant la main, comme si le pouvoir divin qu'il venait d'évoquer s'affaiblirait d'être énoncé. Alors vous tous, croyez. Vous pouvez maintenant commencer à croire, proclama-t-il en se marquant d'un signe de croix. La télévision retransmettait en direct l'essai d'Escalier Céleste 3. Parmi les trois ascenseurs spatiaux dont la construction avait débuté 5 ans plus tôt, deux étaient déjà opérationnels, si bien que l'essai d'Escalier Céleste 3 n'avait pas aujourd'hui de retentissement majeur. Pour l'heure, tous les ascenseurs spatiaux n'étaient pourvus que d'une glissière primitive et possédaient une capacité de convoi relativement faible par rapport au modèle d'ascenseur à 4 glissières actuellement en chantier. Toutefois, cette technologie représentait un bond sans précédent depuis l'époque des fusées chimiques. Si l'on mettait de côté la somme engagée pour leur construction, le coût d'un trajet vers l'espace en ascenseur était en outre bien moins important que celui d'un trajet en avion civil. Par conséquent, le nombre d'objets en mouvement dans la nuit étoilée terrienne augmentait de façon exponentielle. C'était d'immenses structures qu'on fabriquait en orbite. Escalier Céleste 3 était le seul ascenseur spatial dont la base se trouvait en mer, plus précisément sur une île artificielle située sur l'équateur dans l'océan Pacifique. Cette île flottante pouvait naviguer grâce à sa propre énergie nucléaire, ce qui voulait dire qu'on pouvait, en cas de nécessité, ajuster la position de l'ascenseur sur l'équateur. Cette île était la concrétisation de la fameuse île à hélice née sous la plume de Jules Verne, ce qui lui valait le surnom d'île Verne. Sur l'image diffusée par la télévision, on ne voyait cependant pas la mer, mais simplement une base pyramidale bordée par une ville de métal et au sommet de celle-ci, une cabine cylindrique prête à être lancée. De cette distance, la glissière de guidage n'était pas visible, en raison de ses 60 cm de large, bien qu'on pût apercevoir de temps à autre au-dessus de l'ascenseur quelques reflets de lumière émis par le soleil couchant. Trois vieillards étaient devant la télévision. Chang Yuanshao et ses deux vieux voisins, Yang Jinwen et Miao Fukuyan. Tous avaient maintenant dépassé les 70 ans et, sans être gâteux, ils étaient arrivés à un âge où se souvenir du passé et se projeter dans l'avenir constituaient un même fardeau. Dans le même temps, impuissants face au présent, il ne leur restait plus comme choix que de ne penser à rien et de continuer à passer leurs vieilles années dans cette époque instable. C'est alors que Chang Weiming, le fils de Chang Yuanchao, entra dans la maison avec son petit-fils Chang Yan. Il avait un sac en papier à la main. « Papa, Je vous ai rapporté à toi et maman votre carte de rationnement et vos premiers tickets de céréales, dit Chang Weiming, qui sortit un carnet de tickets du sac et le tendit à son père.
Oh, comme à la vieille époque,
commenta Yang Jinwen qui se tenait à côté.
On retourne en arrière, on retourne encore en arrière, soupira à voix basse Chang Yuan Chao en saisissant les tickets.
C'est de l'argent ? Demanda le petit Yan Yan en remarquant les bouts de papier sur lesquels étaient imprimées des fleurs vertes.
Ce n'est pas de l'argent, fiston, expliqua Chang Yuan Chao à son petit-fils. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu veux acheter une quantité supérieure d'aliments à base de céréales, comme du pain ou des gâteaux, ou bien si tu veux aller manger au restaurant, il faudra payer avec de l'argent et ses tickets.
Ça, par contre, ça a changé par rapport à l'époque que vous avez connue.
Chang Weiming sortit une carte de rationnement à puce.
Quelle est la quantité fixée?
J'ai droit à 21,5 kg, soit 43 livres. Xiao Hong et toi, 37 livres, et Yan Yan, 21.
C'est à peu près autant qu'à l'époque, fit Lao Chang.
Cette quantité, ça devrait suffire pour un mois, assura Yang Jinwen.
Chang Weiming secoua la tête.
Professeur Yang, vous avez vécu à cette époque, vous n'en avez donc aucun souvenir? Ça suffira peut-être au début, mais il y aura bientôt de moins en moins d'aliments secondaires. Il faudra faire la queue pour acheter de la viande et des légumes. Cette ration de céréales finira par être vraiment insuffisante.
Ce n'est pas si grave que ça, lâcha Miao Fukuyan en secouant la main. On a déjà vécu ça il y a des dizaines d'années et on n'est pas mort de faim. Taisez-vous, on regarde la télé.
Oh, et je parie qu'on va bientôt devoir utiliser des coupons industriels,
lâcha Chang Yuan Chao en jetant les tickets et la carte de rationnement sur la table et en se retournant vers le téléviseur. À l'écran, la cabine de transport commença à s'élever depuis la base à une vitesse ahurissante, avant de disparaître dans le ciel du soir. La glissière étant invisible, la cabine semblait voler d'elle-même. Elle pouvait atteindre une vitesse maximale de 500 km par heure, mais il lui fallait tout de même 68 heures pour rallier son terminus, une station en orbite géostationnaire. La caméra changea de focus et diffusa l'image de l'ascension depuis le sol de la cabine. Cette fois, la glissière de 60 cm occupait une grande partie de l'image. Sa surface étant lisse, on ne distinguait presque aucun mouvement, à l'exception des indications défilant sur la glissière qui signalait la vitesse d'élévation de la cabine. La glissière devint plus effilée et finit par disparaître, mais au loin, dans la direction du sol, apparurent bientôt les contours nets de l'île Verne, comme un plateau géant suspendu à l'extrémité de la glissière. Yang Jinwen se rappela quelque chose.
« Je vais vous montrer à tous les deux un objet rare, » dit-il en se levant.
Il se dirigea d'un pas claudiquant vers l'extérieur. Peut-être retournait-il chez lui, mais il revint étonnamment vite avec une lamelle de quelque chose de la taille d'un paquet de cigarettes qu'il posa sur la table. Chang Yuan Chao s'en saisit pour l'observer. L'objet était gris, translucide et très léger, comme un ongle.
C'est avec ce matériau qu'ils construisent les ascenseurs spatiaux, s'exclama Yang Jinwen.
Ah ah, on dirait que ton fils a dérobé du matériel stratégique appartenant à l'État,
devina Miao Fukuyan en pointant la lamelle.
C'est juste une chute, il ne l'aurait pas utilisé. Mon fils m'a expliqué que lors de la construction des escaliers célestes, ils ont envoyé plusieurs millions de tonnes de ce matériau-là dans l'espace. Quand ils ont eu fini la glissière, ils en ont fait redescendre depuis l'orbite. Demain, les voyages dans l'espace seront monnaie courante. J'ai aussi demandé à mon fils de me mettre en contact avec des professionnels du secteur.
Tu voudrais aller dans l'espace ?
Demanda Chang Yuan Chao, surpris.
Il n'y a rien de si extraordinaire. J'ai entendu dire qu'on ne ressentait même pas l'hypergravité pendant l'ascension. C'est comme si on prenait un long train avec des wagons-lits, ajouta Miao Fukuyan sur un ton dédaigneux.
Ne pouvant plus exploiter ses mines depuis des années, il avait fait faillite et avait dû vendre sa villa il y a 4 ans. Son appartement ici était devenu sa seule et unique habitation.
Quant à Yang Jinwen, dont le fils avait travaillé au chantier de construction des ascenseurs spatiaux, il avait vu ses conditions de vie s'améliorer et était maintenant devenu le plus fortuné des trois compères, ce qui avait le don de rendre parfois jaloux Miao Fukuyan.
« Ce n'est pas pour moi », reprit Yang Jinwen en levant la tête. Puis il s'assura que Chang Weiming avait emmené son fils dans une autre pièce et il poursuivit.
« C'est pour mes cendres. Allons, vous n'allez quand même pas me dire que c'est tabou à notre âge. » « Il n'y a rien de tabou, mais pourquoi voudrais-tu envoyer tes cendres là-haut »
l'interrogea Chang Yuan Chao.
« Vous savez sans doute qu'il y a un lanceur électromagnétique au bout de l'ascenseur. Le moment venu, mon urne sera projetée à la troisième vitesse cosmique et s'envolera au-dessus du système solaire. C'est ce qu'ils appellent des funérailles cosmiques. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Je ne veux pas que ma dépouille reste sur une planète envahie par des extraterrestres. » C'est une forme d'évasionnisme, je suppose. Et si les extraterrestres sont vaincus? C'est pratiquement impossible, mais si cela arrivait vraiment, je ne perdrais rien au change. Je flânerais dans l'univers pour l'éternité.
Chang Yuan Chao secoua plusieurs fois la tête.
Il n'y a que les intellectuels pour avoir des idées aussi tordues. Ça n'a aucun sens. Les feuilles mortes retournent à la terre. Je préfère encore être inhumé sous le sol jaune de notre terre.
Tu n'as pas peur que les trisolariens excavent ta tombe ?
À ces mots, Miao Fukuyan, qui ne les avait pas interrompus, s'emballa soudain. Il fit signe à ses deux voisins de se rapprocher comme s'il craignait d'être entendu par un intellectron.
« Ne le répétez pas, murmura-t-il, mais j'ai une idée. » Je possède quelques mines vides dans la province du Shanxi. Tu voudrais te faire enterrer là-bas? Non, non, ce ne sont que des petites mines privées, elles ne sont pas bien profondes, mais elles sont reliées à certains endroits à des mines appartenant à l'État. Certaines galeries mènent jusqu'à 400 mètres sous terre, c'est suffisamment profond, non? On s'y fait inhumer, et puis on fait exploser le puits. Je suis sûr que les trisolariens n'iront pas creuser jusque-là. Les humains arrivent bien à creuser n'importe où, pourquoi pas les trisolariens? Ils n'auront qu'à fouiller en dessous de la stèle funéraire.
Miao Fukuyan regarda Chang Yuan Chao et ne put étouffer un rire.
Dis, là-haut Chang, tu es devenu sénile?
En constatant la mine stupéfaite de ce dernier, Miao Fukuyan désigna Yang Jinwen, qui n'éprouvait déjà plus d'intérêt pour le sujet et était concentré sur la retransmission télévisée.
« Je laisse à monsieur l'intellectuel le soin de t'expliquer. »«
Lao Chang, » gloussa Yang Jinwen, « pourquoi voudrais-tu planter une stèle? Les stèles sont faites pour les humains, et à ce moment-là, il n'y en aura plus. »
Chang Yuan Chao, un peu abruti, garda le silence pendant quelques secondes, avant de pousser enfin un long soupir.
« Oui, il n'y aura plus aucun humain. Tout sera à l'abandon. »
Sur le trajet qui le menait à la troisième base expérimentale de fusion nucléaire, le véhicule de Chang Beiyei roulait au milieu d'épais flocons de neige. Quand il arriva à proximité de la base, la neige avait entièrement fondu. La route était devenue extrêmement boueuse et la température, à l'origine glaciale, s'était faite douce et humide. Un parfum de printemps flottait dans l'air. Sur les pentes qui bordaient la route, Chang Beiyei aperçut des pêchers en fleurs, phénomène tout à fait inhabituel en cette rigoureuse période hivernale. Il conduisit jusqu'au bâtiment blanc qui se dressait dans la vallée devant lui. La base était souterraine et cette structure n'en constituait que l'entrée. À ce moment-là, il remarqua quelqu'un en train de cueillir des fleurs de pêcher sur les coteaux. Il regarda de plus près et reconnut l'homme qu'il cherchait. Il stoppa sa voiture.
« Docteur Ding !» cria-t-il à son adresse.
Lorsque ce dernier se dirigea vers le véhicule, une pleine poignée de fleurs à la main, Chang Beiyei lui demanda en souriant.
« Pour qui cueillez-vous ce bouquet ?»«
Pour moi, naturellement. » La floraison a eu lieu très tôt à cause de la chaleur de la fusion.
Derrière ces magnifiques fleurs de pêcher, Ding Yi paraissait radieux.
Il était de toute évidence encore sous l'excitation de l'avancée technologique majeure qui venait d'être réalisée.
« C'est du gaspillage de laisser se disperser toute cette chaleur !»
Chang Beiyei descendit de voiture, ôta ses lunettes de soleil et scruta ce petit paysage printanier. Ici, aucune vapeur ne s'échappait de sa bouche et il pouvait presque ressentir la chaleur du sol sous la plante de ses pieds.
« Nous n'avons ni l'argent ni le temps de bâtir une centrale électrique. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'économiser l'énergie sur Terre. »
Chang Beiyei pointa du doigt le bouquet que Ding Yi tenait dans les mains.
« Docteur Ding, j'aurais préféré que quelque chose vous ait distrait. Sans vous, la découverte n'aurait été faite que bien plus tard. Sans moi, ils auraient peut-être pu la faire encore plus tôt. » Nous sommes plus de 1000 chercheurs dans cette base. Je n'ai fait que pointer du doigt la bonne direction. Je savais depuis le début que l'approche tokamak nous conduisait dans une impasse. Une fois que la direction prise est la bonne, une avancée se produit forcément. En ce qui me concerne, je suis un théoricien et donc tout à fait inapte à diriger des expériences. Mon intuition a peut-être ralenti encore davantage le progrès de la recherche.
« Ne pourriez-vous pas retarder un peu le moment de l'annonce de vos résultats ?»«
Je suis très sérieux. Je vous transmets officieusement le souhait de l'état-major de la spatiale. »«
Comment pourrait-on reporter l'annonce ? Les médias sont sans cesse derrière nous pour connaître les évolutions des tests de fusion des trois bases. »
Chang Beiyei hocha la tête et poussa un soupir.
« Dans ce cas, c'est une catastrophe. Je devine en partie pourquoi, mais dites toujours. »
Si la technologie de fusion nucléaire contrôlée est effective, les recherches sur la conception des vaisseaux spatiaux vont débuter immédiatement. Or, docteur, comme vous le savez, il y a aujourd'hui deux tendances principales vers lesquelles sont orientées ces recherches. Celle concernant des vaisseaux avec médium de propulsion, que défend le secteur aérospatial, et celle sur les vaisseaux à propulsion radiative, sans médium. Préconisé par les experts de l'armée spatiale. Les deux clans s'affrontent sur ce sujet. Ce genre de recherche coûte extrêmement cher et les deux ne pourront pas être menés en parallèle. L'une prendra nécessairement le pas sur l'autre. Le personnel travaillant dans les bases expérimentales de fusion nucléaire et moi-même recommandons l'utilisation d'un propulseur sans médium. Je crois que c'est la seule solution qui convienne à des voyages interstellaires lointains. Je comprends bien sûr que le secteur aérospatial ait sa logique. Les vaisseaux avec médium de propulsion sont une variante de fusée chimique utilisant l'énergie de la fusion. Pour eux, il est plus sûr de pousser les recherches dans ce sens. Mais rien n'est sûr en ce qui concerne les guerres stellaires à venir. Comme vous venez de le dire, un vaisseau avec médium de propulsion n'est rien d'autre qu'une grande fusée. Il leur faut utiliser les deux tiers de leur capacité de fret pour emporter leur support de propulsion, sans compter que ceux-ci s'épuisent très vite. L'appareil devra en outre dépendre d'une base planétaire pour voyager à l'intérieur du système solaire. C'est une idée catastrophique. Ce serait répéter la tragédie de la guerre sino-japonaise. Le système solaire deviendrait le port de Weihai.
C'est une comparaison pertinente,
fit Ding Yi en levant son bouquet vers Chang Beiyei.
C'est une réalité. Les lignes de défense les plus efficaces de la marine, ce sont les bâtiments situés aux abords des ports de l'ennemi. Nous n'y arriverons naturellement pas dans le cas de l'ultime bataille, mais nous pourrions au moins essayer de pousser nos lignes de défense jusqu'au nuage d'Orte et nous assurer que la flotte pourra faire demi-tour si la situation l'exige. Cela devrait constituer le socle stratégique de l'armée spatiale.
En fait, tous les membres du secteur aérospatial ne sont pas aussi bornés. C'est surtout la vieille garde, née à l'époque des fusées chimiques, qui est la plus fervente militante des vaisseaux avec médium de propulsion. Mais d'autres dynamiques scientifiques sont en train de gagner du terrain dans le monde aérospatial. C'est notre cas à nous, du secteur de la fusion nucléaire, qui leur suggérons plutôt de développer des vaisseaux à propulsion radiative sans médium. Les forces s'équilibrent. Mais ceux qui risquent de faire pencher la balance, ce sont les trois ou quatre individus qui tiennent les postes clés. Ce sera leur avis qui sera finalement retenu pour le choix du programme à mener. Malheureusement, je ne vais pas vous mentir, ces gaillards sont de la vieille école.
Et ils ont entre les mains la décision la plus cruciale de toute la stratégie globale de la spatiale. Si l'on se trompe dans cette étape,
C'est toute la flotte spatiale qui sera bâtie sur des fondations erronées. Nous risquons de perdre un, voire deux siècles. Et à ce moment-là, je crains que nous ne puissions plus revenir en arrière. Peut-être, mais ni vous ni moi ne pouvons rien y changer. Après avoir partagé le déjeuner avec Ding Yi, Chang Beiyei quitta la base. Le sol humide se couvrit bientôt d'une neige immaculée sur laquelle les rayons du soleil faisaient ondoyer une lumière blanche. La température de l'air chuta brusquement et le cœur de Chang Beiyei fut envahi de frissons. Il était absolument indispensable de démarrer le chantier de vaisseaux capables de voyages interstellaires lointains. Si toutes les autres voies étaient des impasses, il en restait au moins une à emprunter. Peu importe le danger que cela représentait, il était de son devoir de la suivre. Quand Chang Beiyei pénétra chez le collectionneur de météorites, qui habitait une maison à cour carré nichée au fond d'un hutong, cette habitation baignant dans une lumière blafarde lui sembla un musée de géologie miniature. Des vitrines en verre, dans lesquelles des lampes professionnelles éclairaient des cailloux en apparence ordinaire, étaient installées le long des quatre murs intérieurs. Le propriétaire des lieux était assis à sa table de travail, en train d'examiner une petite pierre avec des lunettes grossissantes. Quand il remarqua la présence du visiteur, il se leva et l'accueillit chaleureusement. Il avait un peu plus de la cinquantaine et paraissait en bonne santé, tant physique qu'intellectuelle. Chang Beiyei remarqua au premier coup d'œil qu'il appartenait à cette catégorie de gens chanceux qui possèdent un petit monde à eux, auquel ils restent fidèles quels que soient les bouleversements du grand monde, et continuent à s'y immerger avec délectation. L'atmosphère ancienne qui imprégnait cette vieille habitation rappela à Chang Beiyei que ses camarades et lui luttaient pour la survie de l'espèce humaine, tandis que la majorité des gens persistaient à mener une existence insouciante, ce qui lui procura à la fois chaleur et sérénité. La conception de l'ascenseur spatial et l'avancée décisive dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée constituaient deux encouragements sensationnels aux yeux du monde, et cela avait permis une réduction non négligeable des sentiments défaitistes. Mais les dirigeants qui gardaient la tête froide savaient que ce n'était que le début. Pour faire une analogie entre l'établissement de la flotte spatiale et celui des forces navales, c'était un peu comme si l'humanité venait tout juste de rejoindre la plage avec ses outils, sans avoir même commencé à bâtir un bassin de radoub. En dehors de la construction des vaisseaux eux-mêmes, il restait également à concevoir les armes spatiales, les écosystèmes autorégénératifs, ainsi que les spatioports, c'est-à-dire des territoires technologiques jamais explorés jusqu'ici, par l'humanité. D'un simple point de vue théorique, cela prendrait peut-être encore un bon siècle. Au-delà de ces étourdissants gouffres technologiques, l'humanité faisait également face à une autre épreuve de taille. L'érection d'un système de défense spatiale engloutirait une quantité colossale de ressources, et ces dépenses risquaient de faire reculer d'un siècle le niveau de vie des populations. C'est pourquoi les plus grands défis psychologiques étaient encore à venir. C'était dans un tel contexte que la direction militaire avait pris la décision de lancer le programme d'envoi dans le futur de renforts issus du département politique de la spatiale. En tant qu'initiateur du projet, Chang Beiyei avait été parmi les premiers officiers sélectionnés pour rejoindre le contingent de renforts. En acceptant la mission, ce dernier avait exigé qu'avant d'entrer en hibernation, l'ensemble du contingent effectue au moins un an d'exercice et de travaux dans l'espace, en préparation de sa mission future. « La commission n'espère quand même pas envoyer comme futur commissaire politique des marins d'eau douce », avait-il dit à Chang Weizi. Sa requête avait été rapidement approuvée et, un mois plus tard, ses camarades du contingent et lui étaient partis dans l'espace. « Vous devez être militaire ?» demanda le collectionneur en apportant le thé. Une fois qu'il eut obtenu confirmation d'un hochement de tête, il poursuivit. « Aujourd'hui, les militaires ne sont plus ce qu'ils étaient, mais vous, je l'ai deviné au premier regard. »« Vous avez été militaire, vous aussi, » affirma Chang Beiyei. « Vous aussi, vous avez l'œil. J'ai servi la majeure partie de ma carrière dans le bureau d'état de cartographie et de topographie. » Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux météorites?
l'interrogea Chang Beiyei en jetant un regard admiratif sur la richesse de sa collection.
C'était il y a plus de 10 ans. Je suis parti en expédition scientifique en Antarctique pour chercher des météorites sous la neige. Depuis, je me suis pris de passion pour ces objets qui nous parviennent d'un autre monde, de l'espace lointain. Avouez que c'est fascinant. Chaque fois que j'en récupère une, c'est comme si je me rendais sur un nouveau monde extraterrestre.
Chang Beiyei sourit en secouant la tête.
C'est juste une impression. La Terre elle-même est formée d'un agrégat de matière interstellaire, ce qui veut dire qu'elle n'est rien d'autre qu'une météorite géante. Toutes les pierres sous nos pieds sont donc des météorites, tout comme cette tasse. On raconte même que l'eau sur Terre a été apportée par des comètes. Par conséquent, ajouta-t-il en levant sa tasse, même le contenu de cette tasse est une météorite. Vos cailloux ne sont pas si rares que ça.
Le collectionneur pointa Chang Beiyei du doigt en riant.
Ha ha, je vois que vous êtes un futé, vous commencez déjà à marchander, mais vous n'arriverez pas à me convaincre.
Tandis qu'il parlait, le collectionneur ne put résister à l'envie de faire admirer ses trésors. Il ouvrit un coffre-fort qui renfermait la perle de sa collection, une achondrite de Mars de la taille d'un ongle. Il fit observer à la loupe à Chang Beiyei les fissures circulaires sur sa surface, expliquant que c'était peut-être des fossiles de micro-organismes.
Il y a 5 ans, Robert Hague, professeur à l'Université de Californie à Los Angeles et grand collectionneur de météorites, a voulu me l'acheter à un prix 1000 fois supérieur à l'or, mais j'ai refusé.
Combien en avez-vous vous-même trouvé ? Demanda Chang Beiyei en désignant les pièces de sa collection.
Seulement une petite partie, j'ai acheté la plupart d'entre elles à des ventes aux enchères publiques ou par le biais de réseaux spécialisés.
Mais si vous me disiez maintenant ce que vous recherchez?
Rien de très précieux, mais elle doit être de haute densité, résistante au choc et facile à travailler.
Je vois. Vous voulez la sculpter, c'est ça?
En quelque sorte, fit Chang Beiyei en hochant la tête.
L'idéal serait de pouvoir la travailler avec un tour.
Une météorite ferreuse, dans ce cas. Dit le collectionneur en ouvrant la porte d'une vitrine et en sortant un caillou sombre de la taille d'une noix.
En voici une, elle est principalement composée de fer et de nickel, mais contient aussi du cobalt, du phosphore, du silicium, du soufre, du cuivre, etc. En termes de densité, elle a ce qu'il vous faut, 8 grammes par centimètre cube. Elle est facile à travailler et est hautement métallique, parfaite pour un tour.
C'est très bien. « Mais auriez-vous quelque chose de plus grand ?»
Le collectionneur en sortit une autre, de la taille d'une pomme.
« C'est encore un peu petit. »
Le collectionneur regarda Chang Beiyei. « Ce genre de choses, ça ne se vend pas au poids, vous savez. Les grandes sont très chères. »«
Alors est-ce que vous en auriez 3 de cette taille ?»
Le collectionneur sortit 3 météorites ferreuses d'une taille similaire, puis il commença à préparer le terrain pour négocier leur prix.
Les météorites de fer sont rares, elles ne représentent que 5% de l'ensemble des météorites, et ces 3-là sont de très bonne qualité. Regardez, celle-ci est une octaédrite. Celle-ci, c'est une ataxite riche en nickel. Les lignes qui se croisent sur sa surface, c'est ce qu'on appelle les figures de Wittmannstetten. Les lignes parallèles ici, ce sont des bandes de Neumann. Celle-ci contient de la camacite, celle-là de la taénite, des minéraux introuvables sur Terre. Celle-ci, je l'ai trouvée dans le désert avec un détecteur de métaux. C'était comme pêcher une aiguille dans l'océan. Ma voiture s'est ensablée, l'arbre de transmission s'est cisaillé, j'ai failli y passer.
Votre prix.
Sur le marché international, des météorites de cette taille et de cette qualité se vendraient environ $20 le gramme. Disons 60 000 yuan par spécimen, 180 000 pour les 3, qu'en dites-vous ?
Chang Beiyei sortit son téléphone portable. « Donnez-moi votre numéro de compte, je vous fais le virement maintenant. »
Le collectionneur resta muet pendant quelques secondes. Chang Beiyei leva la tête et le vit un sourire embarrassé aux lèvres.
« Je m'étais préparé à ce que vous fassiez baisser le prix. »
« Non, j'accepte. » « Écoutez... Maintenant que voyager dans l'espace est devenu plus accessible, les prix du marché ont chuté, même si cela reste toujours plus difficile de trouver des météorites là-haut que sur Terre. Aujourd'hui, elles se vendraient peut-être
Chang Beiyei l'interrompit, décidé. Non, c'est leur prix. Disons que c'est une marque de respect pour ceux qui les recevront. Après avoir quitté la maison du collectionneur, Chang Beiyei apporta les météorites dans un atelier de fabrication de maquettes situé au sein d'un institut de recherche appartenant à la spatiale. Les employés avaient déjà terminé leur journée et l'établissement était vide. Il se dirigea vers un tour à commande numérique de dernière génération. Il commença à découper les trois météorites en petits cylindres de même diamètre de l'épaisseur d'un crayon à papier, puis il les tronçonna en segments de longueur égale. Il procédait avec précaution, s'efforçant de gaspiller le moins possible le matériau d'origine. Il finit par obtenir 36 petits cylindres de météorites. Cela terminé, il récupéra précautionneusement les chutes, ôta de la machine la lame spéciale qu'il avait utilisée pour travailler les minéraux et sortit de l'atelier. Chang Beiyei accomplit le reste du travail dans une cave secrète. Sur la table devant lui étaient posées 36 cartouches de pistolet de calibre 7.62. Il en retira les projectiles avec une pince. Si cela avait été des cartouches avec une douille en cuivre comme autrefois, l'affaire n'aurait pas été aussi simple, car il aurait fallu utiliser une solution liquide de desserrage. Mais 2 ans plus tôt, l'armée avait renouvelé son arsenal et utilisait maintenant des munitions sans douille. La balle était directement collée au propergol et s'avérait dès lors beaucoup plus simple à détacher. Il utilisa un adhésif spécial pour faire adhérer chaque cylindre de météorite au propergol, créant ainsi 36 balles de météorite. L'adhésif qu'il utilisa était à l'origine consacré à la réparation des coques de cabine spatiale. Il permettrait de garantir l'efficacité des balles dans un environnement spatial alternant entre un froid et une chaleur extrême. Chang Beiyei inséra 4 balles dans un chargeur qu'il glissa dans son pistolet de service, puis il fit feu sur un sac en toile accroché dans un coin du mur. Dans l'espace exigu de la cave, les détonations firent un bruit assourdissant et dégagèrent une forte odeur de poudre. Il examina en détail les 4 trous de balles dans le sac et nota qu'ils étaient de petite taille, ce qui signifiait que les météorites ne s'étaient pas fragmentées lors du tir. Il ouvrit le sac, en sortit un gros morceau de viande de bœuf cru et se servit d'un couteau pour extraire les balles qui s'étaient fichues dans la viande. Il vit que les 4 tiges étaient brisées, formant un petit tas de gravats qu'il fit glisser dans sa paume. On ne voyait aucun signe de son travail. Il était pleinement satisfait de ce résultat. La toile dans laquelle avait été placé le morceau de bœuf était faite d'un matériau utilisé dans les combinaisons spatiales. Pour simuler au plus près la réalité, la toile avait été conçue en 3 couches entre lesquelles avaient été installées, entre autres, des éponges thermiques et des tuyaux en plastique. Chang Beiyei rangea précautionneusement les 32 autres balles de météorites, sortit de la cave et commença les préparatifs de son départ dans l'espace. Chang Beiyei flottait dans l'espace. À une distance d'environ 5 km de Wang E, cette station spatiale en forme de pneu située 300 km au-dessus du terminus, où elle faisait contrepoids à l'ascenseur spatial. C'était actuellement la plus grande construction humaine dans l'espace. Elle pouvait accueillir plus de 1000 visiteurs. Dans un rayon de 500 km autour de l'ascenseur, se trouvaient également d'autres installations spatiales, néanmoins toutes beaucoup plus petites que la station de Wan E. Elles étaient disséminées un peu partout comme des tentes nomades dans la grande plaine de l'Ouest américain à l'époque des premiers pionniers. Elles représentaient le prélude à l'arrivée massive des humains dans l'espace. Le dock spatial, dont le chantier venait d'être lancé, deviendrait bientôt à son tour la plus grande structure humaine dans l'espace. Elle couvrirait une superficie près de 10 fois supérieure à celle de la station de Wan E, mais seule sa charpente avait pour l'instant été bâtie, de sorte qu'on croyait voir le squelette d'une créature titanesque. À une distance d'environ 80 km de Chang Beiyei, se dressait une station spatiale indépendante dont l'envergure n'était que d'un 1/5 de celle de la station de Wan E. C'était la première base établie en orbite géostationnaire par l'armée spatiale, et c'était de là que s'était envolé plus tôt Chang Beiyei. Il y vivait
et travaillait avec ses camarades du contingent de renfort depuis maintenant 3 mois et n'était retourné qu'une seule fois à la surface de la Terre. Dans cette première base, Chang Beiyei avait attendu une opportunité, et cette opportunité se présentait aujourd'hui. Les pontes du secteur aérospatial tenaient une réunion de travail dans la station de Wang-e, et les 3 cibles qu'ils voulaient éliminer y participaient. Depuis que la station était opérationnelle, le secteur aérospatial y organisait des réunions régulières, un peu comme si, n'ayant jamais eu jusqu'ici la chance d'envoyer ses employés dans l'espace, il voulait rattraper le temps perdu. Avant de quitter la première base, Chang Beiyei avait laissé l'instrument de géolocalisation de sa combinaison spatiale dans sa cabine, et par conséquent, le système de surveillance de la base ne pourrait savoir qu'il était parti et n'aurait aucune trace de son action. Grâce au petit propulseur dont était équipée sa combinaison, il vola sur une distance de 80 km avant d'arriver à l'endroit où il patientait désormais calmement. Chang Beiyei savait que la réunion était maintenant terminée. Il attendait que les participants sortent se faire prendre en photo. C'était une tradition que les participants des réunions à bord de la station prennent une photo de groupe à l'extérieur de la structure. La plupart du temps, celle-ci devait être prise à contre-jour car c'était le seul moyen pour avoir la station spatiale en fond. Au moment de prendre la photo, tous les individus devaient régler la visière de leur casque en mode transparent pour que leur visage soit visible sur la photographie. Cependant, si le soleil était à son zénith, ces éblouissants rayons aveugleraient leurs yeux et la chaleur dans leur casque deviendrait intolérable. Par conséquent, le moment idéal pour prendre ce type de photo était lorsque le soleil venait de se lever ou bien lorsqu'il commençait à descendre derrière l'horizon terrestre. En orbite géosynchrone, les levées et les couchers de soleil avaient lieu toutes les 24 heures, bien que les nuits fussent courtes. Chang Beiyei attendait le crépuscule. Il savait que le système de surveillance de la station de Wan-e pouvait détecter sa présence, mais qu'il n'attirerait pas l'attention. Cette région pionnière de l'exploration spatiale était parcourue de matériaux de construction abandonnés ou en attente d'être utilisés, et d'une quantité plus grande encore de déchets. Beaucoup de ces objets flottants avaient la taille d'un être humain. En outre, la relation entre l'ascenseur spatial et les installations périphériques était la même qu'entre une métropole et des villages périurbains. L'approvisionnement des seconds provenait intégralement du premier, si bien qu'un trafic intense avait lieu entre les deux. À mesure qu'ils s'adaptaient à ce nouvel environnement, les hommes prenaient l'habitude de se déplacer seuls dans l'espace. Leurs combinaisons étaient des sortes de bicyclettes spatiales, grâce aux propulseurs qui leur permettaient de se mouvoir à une vitesse de près de 500 km par heure. C'était certainement le moyen de transport le plus pratique dans un périmètre de quelques centaines de kilomètres autour de l'ascenseur spatial, de sorte que des individus vêtus de combinaisons spatiales volaient sans cesse entre l'ascenseur spatial et les stations alentour. Toutefois, à cet instant, Chang Beiyei avait l'intuition que l'espace autour de lui était vide. En dehors de la Terre, dont on voyait déjà clairement les contours depuis l'orbite géosynchrone, et du Soleil qui allait bientôt s'évanouir derrière ses frontières, ce n'était dans toutes les directions que des abysses noires. Les étoiles, quoiqu'innombrables, n'étaient que des grains de poussière scintillants, n'affectant guère l'invariable néant cosmique. Il savait que le système de survie de sa combinaison avait une autonomie de 12 heures, après quoi il devrait rentrer en toute hâte à la première base, 80 km plus loin. Un lointain point informe au milieu du gouffre spatial. La base elle-même ne survivrait pas beaucoup plus si elle se détachait du cordon ombilical de l'ascenseur spatial, mais il flottait à présent dans un vaste vide qui lui paraissait, mentalement du moins, coupé du monde bleu du dessous. Il avait l'impression d'être une existence cosmique autonome, ne dépendant d'aucun monde, sans terre s'étalant sous ses pieds, seulement entourée d'espace, suspendue dans l'univers comme la Terre, le Soleil ou la Voie lactée, sans origine ni destination. Il ne faisait qu'exister, et il aimait cette sensation.
Il sentait même que l'esprit de son père, là où il était, partageait cette sensation avec lui. Le soleil entra en contact avec les lisières de la terre. Chang Beiyei leva une main. Le gant de sa combinaison tenait une lunette de visée dont il se servit pour observer une des sorties de la station de Wang'e à 10 kilomètres de là. Sur la large paroi extérieure métallique arquée, l'écoutille circulaire était encore close. Il tourna la tête vers le soleil qui s'était déjà à moitié couché et ressemblait maintenant à un anneau étincelant accroché au sommet de la terre. Il porta à nouveau son regard vers la station. Il aperçut cette fois dans sa lunette que le signal lumineux de l'écoutille était passé du rouge au vert, ce qui indiquait que l'air avait été vidé dans le sas. Aussitôt après, l'écoutille s'ouvrit et des silhouettes en combinaison blanche sortirent les unes après les autres. Il y en avait une trentaine. Tandis qu'ils volaient en groupe pour s'éloigner de la station, ils projetaient une ombre de plus en plus large sur la paroi. Il leur était nécessaire de se décaler à une distance assez lointaine de la station pour pouvoir la photographier en entier. Très vite, ils ralentirent et, suivant les instructions du photographe, ils commencèrent à former des rangs en apesanteur. Les deux tiers du soleil avaient maintenant déjà sombré derrière l'horizon. Le tiers restant ne semblait plus être qu'un objet lumineux incrusté sur la terre. Sous les rayons du crépuscule, les océans ressemblaient à des miroirs lisses, à moitié bleu foncé et à moitié orangé, tandis que les nuages gorgés de soleil avaient l'aspect de plumes roses. Alors que la luminosité baissait, les individus rassemblés pour la photo commencèrent à régler la visière de leur casque en mode transparent pour faire apparaître leur visage. Chang Beiyei augmenta la longueur focale de la lunette et identifia rapidement ses trois cibles. Comme il s'y attendait, en raison de leur grade, ils avaient été placés au centre du rang. Chang Beiyei lâcha la lunette de visée et la laissa en suspension devant lui. Puis il défit avec sa main gauche l'anneau métallique de protection de son gant droit pour le détacher. Sa main droite n'était désormais plus couverte que d'un gant en toile fine, et il ressentit immédiatement la température de l'espace de moins 100 degrés. Pour éviter que sa main ne gèle trop vite, il dirigea son corps à un angle tel que les rayons du soleil, même faibles, puissent lui réchauffer la main. Il plongea cette même main dans la poche extérieure de sa combinaison et en sortit son pistolet et deux cartouches. Puis, de la main gauche, il saisit sa lunette de visée encore en suspension et la fixa sur son arme. La lunette était originellement utilisée sur des fusils, mais il l'avait modifiée en remplaçant le dispositif de fixation par un aimant, de manière à pouvoir s'en servir sur une arme de poing. La majeure partie des armes à feu terrestres pouvait tirer dans l'espace. Le vide n'était pas un problème, car le propergol des balles contenait un agent oxydant. Il fallait en revanche prendre en compte la température de l'espace, car elle différait beaucoup de celle de l'atmosphère et pouvait avoir une incidence tant sur l'arme que sur les munitions. Aussi, Chang Beiyei n'avait pas voulu prendre le risque d'exposer le pistolet et les cartouches trop longtemps à l'air libre. Pour réduire ce temps, il s'était entraîné sans relâche ces trois derniers mois à sortir le pistolet, installer la lunette de visée et changer la cartouche en apesanteur. Il commença à viser. Le réticule de la lunette correspondit rapidement avec sa première cible. À l'intérieur de l'atmosphère terrestre, même les tireurs d'élite les plus virtuoses étaient incapables d'atteindre une cible à 5 kilomètres, mais dans l'espace, cet exploit était permis à un tireur ordinaire. Dans le vide et en apesanteur, la trajectoire de la balle ne subirait aucune perturbation. Il suffisait de viser juste et elle suivrait une ligne parfaitement droite jusqu'à sa cible. Dans le même temps, en l'absence de résistance de l'air, la balle ne décélérerait pas durant son vol et toucherait la cible à sa vitesse initiale, ce qui garantissait une puissance meurtrière, même à longue distance. Chang Beiyei pressa la détente. La détonation fut silencieuse, mais il put voir le flamboiement dans le canon et sentir le recul. Il fit feu à 10 reprises sur la première cible et changea rapidement sa cartouche, avant de tirer une autre salve de 10 coups sur le deuxième homme. Il fit de même pour la troisième cible, sur laquelle il tira ses 10 dernières balles.
le canon du pistolet flamboya 30 fois. Et si quelqu'un dans la direction de la station de Wan-e y avait prêté attention, il aurait cru voir une luciole devant le fond obscur de l'espace. Les 30 balles de météorites fondaient à présent vers leur cible. La vitesse initiale des balles de ce type 2010 était de 500 mètres par seconde. Elles auraient fini de parcourir la distance en 10 secondes. Il ne restait donc plus à Chang Beiyei qu'à prier que ses cibles ne changent pas de position durant ce laps de temps. Cet espoir n'était pas sans fondement, car les deux rangées de derrière ne s'étaient pas encore positionnées correctement et les pontes du premier rang n'avaient rien d'autre à faire que les attendre. Et même si tous étaient prêts, le photographe devrait encore attendre quelques secondes que la fumée blanche de leur propulseur se dissipe. Mais les individus flottaient malgré tout dans l'espace et demeuraient facilement mobiles sous l'effet de l'apesanteur. S'ils venaient à bouger, non seulement les balles n'atteindraient pas leur cible, mais elles pourraient toucher des innocents. Innocents. Les 3 hommes qu'ils s'apprêtaient à tuer l'étaient aussi avant le début de la crise trisolarienne. Mieux que ça. Avec un budget qui paraissait aujourd'hui insignifiant et avec la prudence de marcheurs sur un lac gelé, ils avaient réussi à ouvrir la voie à un nouvel âge spatial. Mais c'était précisément cette pondération qui entravait à présent leurs pensées. Pour le bien des vaisseaux interstellaires, ils devaient être éliminés. Leur mort pourrait être vue comme leur ultime contribution à la cause d'une ère spatiale humaine. En réalité, Chang Beiyei avait délibérément dévié la trajectoire de certaines de ses balles, espérant qu'elles toucheraient d'autres individus que ses cibles. Idéalement, il préférait qu'ils ne soient que blessés, mais si certains venaient à mourir, il n'en avait cure. En agissant ainsi, il limitait les risques d'être suspecté. Chang Beiyei souleva son pistolet vide et examina froidement la scène depuis la lunette de visée. Il s'était préparé à l'échec et, dans cette éventualité, il rechercherait avec la même insensibilité une deuxième occasion d'agir. Les secondes s'écoulèrent, et, enfin, des signes que les cibles avaient été touchées apparurent. Chang Beiyei ne vit aucun trou dans leur combinaison, mais du gaz blanc s'en échappait. Aussitôt, un plus grand nuage de vapeur blanche jaillit entre le premier et le deuxième rang. Après avoir transpercé la cible, une balle avait sans doute atteint un propulseur. Il avait confiance dans la puissance létale des munitions. Les balles de météorites avaient atteint leur cible sans avoir perdu la moindre vitesse. C'était comme s'il avait tiré sur elle à bout portant. Il remarqua que le casque de l'une des cibles était criblé de trous. La visière n'était plus transparente, mais il put voir le sang jaillir de l'intérieur et suivre la trajectoire prise par la balle, avant de geler rapidement en cristaux de glace de la forme de flocons de neige. Ses observations purent rapidement confirmer que 3 des 5 personnes touchées étaient celles qu'il avait visées et que chacune d'entre elles avait été atteinte au moins 5 fois. À travers les visières transparentes des individus, Chang Beiyei put constater qu'ils étaient tous saisis de panique et il parvint à lire sur leurs lèvres les mots qu'il espérait. Une pluie de météorites. Tous les individus prêts à se faire prendre en photo rallumèrent leurs propulseurs à pleine puissance et se ruèrent vers la station, ne laissant derrière eux que des traînées de fumée blanche. Ils rentrèrent rapidement dans la station par les coutilles blindées. Chang Beiyei remarqua que les 5 personnes touchées par ces balles avaient été tirées à l'intérieur. Chang Beiyei remit ses propulseurs en marche et accéléra en direction de la première base. Son esprit était en ce moment même aussi calme et froid que le vide spatial autour de lui. Il savait que la mort de ces 3 figures du secteur aérospatial ne garantissait pas que les recherches sur les vaisseaux à propulsion radiative sans médium deviendraient majoritaires, mais il aurait au moins fait ce qu'il pouvait faire. Peu importe ce qui arriverait désormais, sous le regard de son père depuis le monde invisible où il se trouvait, il pouvait être rassuré.
Presque au moment où Chang Beiyei retournait à la première base, sur Terre, une foule de gens se rassemblait sur la plaine désolée du monde virtuel des 3 corps pour discuter de ce qui venait de se passer.
Le rapport transmis par l'intellectron est extrêmement complet, sans quoi nous n'aurions peut-être pas osé croire qu'il avait réellement agi ainsi,
dit Tsin Chi Wang, tout en raclant machinalement le sol avec son épée, ce qui trahissait son inquiétude.
Regardez ce que lui a réussi, et comparez avec nos 3 tentatives d'assassiner Luo Ji. Parfois je me dis que nous manquons vraiment de sang-froid et d'expérience.
Allons-nous rester ici à ne rien faire pendant que cet individu passe à l'acte ?
Demanda Einstein.
C'est en tout cas la volonté des dieux. Cet homme est un résistant et un triomphaliste forcené. Les dieux ne souhaitent pas que nous intervenions pour contrer ce genre d'individu. Nous devons nous concentrer sur l'évasionnisme. Les dieux considèrent que le défaitisme est plus dangereux que le triomphalisme, précisa Newton.
Nous devrions réfléchir aux missions que nous effectuons au service des dieux et davantage questionner leur stratégie. Après tout, ils ne sont capables que d'intrigues enfantines, osa Mozi.
Tsin Chi Wang frappa le sol avec son épée.
Quoi qu'il en soit, il est préférable de ne pas intervenir dans cette affaire. Laissons-les développer leur propulsion sans médium. C'est une frontière technologique infranchissable dans une situation où la physique est verrouillée par les intellectrons. C'est aussi un gouffre sans fond, car les humains y consacreront énormément de temps et de ressources pour rien.
Tout le monde est à peu près d'accord sur ce point, mais j'ai le sentiment que cet homme n'est pas à prendre à la légère. Il est dangereux, fit von Neumann.
Je suis d'accord, approuva Aristote. Je le croyais un militaire intègre, mais sa conduite ne correspond en rien à celle d'un soldat habitué à suivre une discipline et des règles strictes.
Cet homme est dangereux, en effet, et sa foi est tenace. Il a une vision à long terme et ne fait pas de sentiments. Il a exécuté ses hommes avec aplomb et résolution. C'est d'ordinaire un individu de nature prudente et consciencieuse, mais qui n'hésite pas, quand il le faut, à sortir des rails et à prendre des mesures radicales,
soupira Confucius.
Comme vient de le dire Sa Majesté impériale Tsin Chi Wang, nous manquons cruellement de ce genre d'homme.
Il ne devrait pas être si difficile de s'occuper de lui. Dénonçons ses meurtres et l'affaire sera réglée,
dit Newton.
« Ce n'est pas si simple, » dit Tsin Chi Wang en faisant un geste de la manche en direction de Newton. « Tout est votre faute. Ces dernières années, vous n'avez cessé de vous servir des informations transmises par les intellectrons pour semer la discorde au sein de l'armée spatiale et des Nations Unies. Et voyez où nous en sommes. Se faire dénoncer par vous est devenu un honneur et même un symbole de loyauté. »
« De plus, nous ne disposons d'aucune preuve, » ajouta Mozi.
Son plan était très bien pensé. Les balles ayant traversé les corps ne se sont pas fragmentées. Lors de l'autopsie, on ne pourra extraire des cadavres que des morceaux de météorites ordinaires. Tous croiront qu'ils sont morts frappés par une pluie de météorites. La vérité est si farfelue que personne n'y croira.
Heureusement, il partira bientôt renforcer la future armée spatiale et il ne causera plus d'embarras pendant un certain temps.
« Il s'en va !» lâcha Einstein dans un long soupir. « Ils s'en vont tous !» Certains d'entre nous devraient aussi être envoyés dans le futur.
Ce n'était officiellement qu'un au revoir, mais ils savaient au fond de leur cœur que c'était des adieux. Le contingent de renfort du futur se dirigeait vers l'aéroport, accompagné par quelques officiers de la spatiale, dont Chang Guizi. Celui-ci tendit une enveloppe à Chang Beiyei.
Voici une lettre pour mon futur successeur. Elle y explique votre situation et vous recommande auprès du futur état-major de l'armée spatiale. Vous vous réveillerez au plus tôt dans 50 ans, peut-être même encore plus tard. Vous devrez alors travailler dans un environnement encore plus rude. Il faudra en premier lieu vous adapter au futur et préserver en même temps l'esprit militaire de notre temps. Il vous faudra comprendre ce qui, dans nos méthodes de travail actuelles, est obsolète et ce qu'il convient au contraire de maintenir coûte que coûte. Cela sera peut-être votre plus grand avantage dans le futur.
Amiral, pour la première fois, je regrette d'être athée. Sinon, j'aurai l'espoir que nous nous revoyions un jour.
Chang Guizi fut décontenancé par ces paroles venant d'un homme habituellement si austère. Elles soulevèrent une vague d'émotion chez chacune des personnes présentes. Mais en tant que militaire, ils dissimulèrent cet émoi au plus profond d'eux-mêmes.
Soyons déjà reconnaissants d'avoir pu nous rencontrer dans cette vie. Transmettez nos respects à nos camarades du futur, lâcha Chang Guizi.
Après un ultime salut militaire, le contingent de renfort embarqua dans l'avion à destination du centre d'hibernation.
Les yeux de Chang Weizi ne quittèrent pas la silhouette de Chang Beiyei. Un guerrier dévoué était parti. Il n'en viendrait peut-être jamais un deuxième comme lui. D'où tenait-il cette foi inébranlable? Cette question avait toujours été dans un coin de l'esprit de Chang Weizi. Il en éprouvait parfois même un peu de jalousie. Un militaire avec une telle confiance dans la victoire était chanceux. Durant l'ultime bataille, rares seraient ceux qui auraient une telle chance. Tandis que la robuste carrure de Chang Beiyei disparaissait dans la cabine, Chang Weizi dut admettre que jusqu'au bout, il n'avait pas été en mesure de le comprendre parfaitement. L'avion décolla, emportant ces hommes qui auraient la fortune d'assister au dernier soupir de l'humanité. Il s'évanouit derrière les fines couches de nuages pâles. C'était un maussade d'après-midi d'hiver. Le soleil dardait de faibles rayons derrière le voile de gaz gris des nuages et un vent glacial soufflait sur le tarmac vide, métamorphosant l'air en un morceau de cristal gelé. On en venait à douter que le printemps reviendrait un jour. Chang Weizi releva le col de son manteau militaire. C'était aujourd'hui même l'anniversaire de ses 54 ans, et dans ce saisissant froid hivernal, il entrevit en même temps sa propre fin et celle de la race humaine.